De retour à l'émission Au gré du temps, où on reçoit Gilbert Rozon, à quelques jours de l'ouverture de votre combientième saison?
33e festival.
Pensiez-vous que ça irait aussi loin?
Ben, je l'espérais, mais on peut pas penser 33 ans d'avance, à moins d'être absolument, je sais pas quoi d'ailleurs. Là. Parce que à cet âge-là, tu penses pas comme ça. Mais j'aime bien dire que j'ai acheté une grande pièce de terrain, espérant construire un domaine.
Bien, le domaine est véritablement très large, très spacieux, et on y accueille beaucoup de monde, d'ailleurs. Quand on parle de Gilbert Rozon, au fil du temps, est devenu aussi une personnalité suffisamment grande, peut-on dire. J'imagine que la gloire, ça doit être aussi assez valorisant. C'est pas désagréable d'être reconnu.
Oui, puis ça arrive un bon moment dans ma vie. Je crois que j'ai tellement côtoyé de gens qui ont connu la gloire, j'ai vu les têtes enflées, que même si ça flatte mon ego, même si ça m'est utile, même si ça m'ouvre des portes ou que j'ai des meilleures tables au restaurant, je reste quand même les deux pieds sur terre.
Alors, vous ne l'êtes pas, vous?
Oui. Bien, j'essaie parce que si à 60 ans, ça me monte à la tête, après avoir été tellement rétamé sur l'enclume de la vie, il faudrait vraiment être un peu fou. T'sais, j'ai vécu ça avec Trenet. Trenet, après avoir été une mégastar mondiale, oui, pendant 30-40 ans, était devenu un has-been. Et je suis allé le chercher à ce moment-là. Et il est revenu une star, il est redevenu une star. Et je peux vous dire qu'il avait deux pieds sur terre.
On aura sûrement l'occasion d'y revenir parce que vous avez été très persévérant pour faire revenir ce Charles Trenet. Mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'on est reconnu, vous êtes reconnu aussi en France parce que depuis maintenant quelques années, vous participez à une émission qui s'appelle « La France a un incroyable talent ». Comment c'est venu cette participation?
J'ai cru que c'était un canular parce qu'un jour, je reçois un appel comme ça sur mon portable d'une personne que je n'avais jamais entendu parler en me disant « On cherche un juge dans une émission de talent. » En fait, cette personne-là était un peu maligne. Elle voulait avoir mes dépisteurs pour l'aider à recruter. Et elle me fait miroiter d'être un juge, sachant qu'elle ne me donnerait pas le travail. Elle est venue me rencontrer simplement pour un peu m'appâter. Et moi, je l'ai rencontrée pensant que c'était un canular. Donc, il y avait un tel quiproquo que j'ai fait que déconner, que dire des bêtises.
Et comme vous pouvez le faire, d'ailleurs.
Oui, elle s'est mise à rire. Elle raconte, j'ai sorti de chez vous, M. Rozon, je me suis dit, c'est lui que je veux. Et de là, on m'a demandé de venir rencontrer les patrons de la chaîne. J'ai pas le temps. Alors, j'avais l'air d'une méga star qui se fout de tout. Et plus j'ai opposé de la résistance, et plus on m'a désiré, quoi. C'est l'histoire de la vie, ça.
Oui, absolument. En janvier 2015, je vais revenir sur un petit incident. Cette émission, oui, La France a beaucoup de talent, a un incroyable talent. Oui. Il y a quelqu'un qui s'y présente, un Britannique, Stevie Starr. En fait, c'est un Écossais d'origine, qui a fait un numéro assez spectaculaire en avalant toutes sortes de choses et qui a produit ou provoqué un commentaire désobligeant d'une chroniqueuse, Audrey Pulvar. Et vous avez réagi avec force à son propos. Si vous voulez bien, on va écouter ce que vous disiez en ondes à ce moment.
Stevie! Tu es mon golden buzzer, hein? Et je le regrette pas, parce que s'il y a un numéro qui est absolument incroyable, c'est celui-là. C'est complètement éberluant, c'est mystifiant. Et puis, on a la mâchoire décrochée, quoi. Wow! Et ce que je trouve, tu vois, il y a une femme, je pense, Audrey Boulevard, qui a dit cette semaine que ce numéro-là était de la merde, puis que l'émission était de la merde. Eh bien, j'ai pas envie de lui dire merde, j'ai juste envie de lui dire, si ça, c'est de la merde, elle sent drôlement bon, elle vaut très cher, et le public est complètement fou, alors.
Absolument.
Il y a bien raison! C'est unique au monde!
Absolument!
Unique au monde! Tu es à ta place, tu mérites de gagner!
Merci.
Incroyable ce qu'on peut dire comme bêtise. Mais
vous aviez été piqué au vif et vous vouliez défendre ce concurrent.
J'ai trouvé ça triste qu'elle s'attaque à un tel talent parce que c'est quand même une rareté mondiale. C'est le seul au monde qui avale les objets et les régurgite. On n'a aucune idée comment il fait ça, mais devant nous, il fait vraiment... C'est un tour de magie, c'est drôlement bien fait. Alors, c'est très impressionnant. Et je trouvais que ça méritait... le public est debout, il fait un standing ovation, il y a quelqu'un qui se permet de dire que le public est con, que tout le monde est con. Tu peux pas faire ça.
Et par ailleurs, on dit souvent que Gilbert Rozon, comme membre de ce jury, a parfois des propos acérés, des propos qui sont... qui ne pardonnent pas et qui peuvent même mettre un terme à l'espoir du concurrent de faire carrière éventuellement.
Mais vous savez, il y a certains espoirs qu'il faut savoir éteindre parce qu'ils mènent nulle part. Alors, c'est pas... c'est rendre service. Curieusement, en neuf années que je fais ça, j'ai peut-être connu une personne qui était fâchée. Les autres m'ont remercié. Je leur dis, vous n'êtes pas fait pour faire ce métier-là. Arrêtez. Concentrez votre énergie sur autre chose. Alors, c'est sûr que c'est dur comme ça quand on le raconte. Mais il se présente des gens chez nous qui sont chanteurs de bal et qui s'imaginent devenir mégastars et qui gaspillent 100 jours par année à aller vraiment nulle part parce qu'ils n'en ont pas de talent.
Mais il n'en demeure pas moins que des fois, la star, c'est le membre lui-même du jury.
Oui, oui,
bon, vous le faites avec Laurie. Je ne connais pas le troisième membre de ce...
Il y a Giuliano Peperini, puis il y a un garçon qui s'appelle Olivier Citruc, qui est un comédien formidable.
Mais sur le genre, ces émissions de télé-réalité, vous en pensez quoi fondamentalement?
Moi, je l'ai fait parce que, au-delà du défi intellectuel, parce qu'il y en a un...
Quel est-il? Je vous arrête
tout de suite. Vous voyez 200, 250 talents défiler devant vous. Vous ne pouvez pas répéter. La structure dramatique n'est pas bonne. La chute... À un moment donné, il faut se renouveler. Donc, ça prend des métaphores. Ça prend... Il faut vraiment avoir un vocabulaire châtié. Il faut chercher, quoi. Alors, il y a un devoir de bien parler et de dire quelque chose qui fait sens en ayant vraiment beaucoup de synonymes, beaucoup de mots. Donc, moi, je fais un gros travail de recherche sur les mots pour arriver solide sur mes pattes, parce que je ne peux pas dire 200 fois la même phrase, ce que je me permettrais en audition, parce que j'aurais quelqu'un, mais là, tu étais à la télévision. Et ça, c'est un premier défi. Mais l'autre défi, c'est que je pense que ça donne vraiment la chance, c'est pas un défi, mais ça donne la chance à des gens de se trouver du travail. Et c'est concret, là. La totalité des gagnants et la plupart des finalistes, pour ne pas dire les demi-finalistes, aujourd'hui, ont du boulot. Alors, c'est ce qu'on appelle un tremplin, un vrai, pour toutes les formes de spectacle. C'est ça qui est formidable.
Et vous leur donnez une chance aussi de participer au festival.
Oui, en plus, bien sûr, mais ça me fait autant plaisir que ça leur fait du bien. Mais vous savez, l'année dernière, il y a une dame qui est arrivée deuxième, puis elle était chanteuse d'opéra, mais elle avait aidé sa mère dans sa jeunesse, elle n'a pas pu réaliser son rêve. Elle arrive sur scène à 50 ans. En principe, c'est foutu, là, bon. Elle nous a jeté à terre. Et là, elle a plein de boulot, elle, là. Elle a 200 galas. 200 galas. Cette femme-là, elle avait une telle émotion parce qu'elle a retrouvé son chemin, sa destinée. Et on le fait pour beaucoup, beaucoup de gens. Et finalement, vous savez, moi, j'aime le musical. J'aime la variété.
Mais pour terminer sur ce thème, vous avez quand même conscience du pouvoir qui est le vôtre.
Oui, mais c'est aussi ce qu'on peut donner comme possibilité aux gens. Moi, je regarde plus le côté positif. Si, évidemment, on arrête quelqu'un dans son envol, mais peut-être qu'elle allait s'écraser beaucoup plus que le
Vous évitez justement l'effondrement.
Le gros crash, là. Je le présente comme ça, c'est la meilleure façon, je peux y arriver, là. Mais c'est sûr, c'est les jeux de cirque, soyons honnêtes aussi, là. C'est les jeux de cirque.
Alors, on pourrait dire, que reste-t-il de nos amours après un tel passage?
Et de notre humour.
Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, une jolie photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des pieds doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit aux azaises. Fermé, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans le nuage, le cher visage de mon passé. Si bien caché, et dans le nuage, le cher visage de mon passé.
Gilbert Rozon est avec nous. On vient d'entendre Claude Blanchard avec ce méga succès de Charles Trenet. Claude Blanchard qui est peut-être le représentant d'une autre catégorie d'humoristes, d'une autre époque, mais qui a fait aussi les beaux jours de Montréal dans les cabarets, comme il y en a eu plusieurs. On pense au La Tulipe, Guimond et le reste. L'humour a toujours été présent ici. C'est important.
Oui, vous avez dû voir, parce que ça vous intéresse ce sujet-là, Au nom de la rose, qui racontait, dans le fond, essentiellement, que l'humour a toujours été, par la religion catholique, assez mal vu, puisqu'il désacralise. Et moi, je pense, parce que j'ai eu beaucoup d'amis, même dans ma famille, j'avais une tante qui était religieuse, mon oncle était chanoine, c'était des gens qui avaient beaucoup d'humour. Alors, cette espèce de rapport à l'humour a toujours été, du moins chez les catholiques, quelque chose d'un peu ambigu. On aime tous rire, on est païens dans ce sens-là. Puis en même temps, bien, la religion nous a toujours enseigné que c'est un peu le diable. Alors des gars comme... moi, j'arrive pas à avoir de mépris, mais pour aucun humoriste, que ce soit le plus populiste, le plus populaire, comme pouvait l'être Claude Blanchard, je trouve que les gens qui nous allègent la vie, qui nous la font voir sous un autre angle, c'est des philosophes pour moi. C'est des gens qui nous font prendre du recul. Alors, il y a toutes sortes de façons. Il y en a que c'est plus haut que d'autres, c'est plus élevé. Et je terminerai, oui. Je veux dire quand même, c'est que je suis assez vieux pour avoir vu Olivier Guimond, Louis de Funès, Bourvil, méprisés par une intelligentsia et plébiscités après leur mort. Alors moi, je préfère leur dire de leur vivant que je les trouve bons.
Tout ce qui est, ouais, tout à fait. Et tout ce qui était théâtre variété, théâtre de boulevard, était effectivement méprisé à une certaine époque. Et pourtant,
il n'y a pas longtemps, pensez juste à Gilles Latulippe. Moi, je ne savais pas qu'elle allait mourir. On a décidé, puis c'est Stéphane Bureau qui a décidé d'y rendre hommage.
Et quelle belle synchronicité,
oui,
à quelques mois.
Quelle chance. Mais oui. Vous savez, ce qui m'a le plus ému, c'est que son fils, qui je trouvais, qui nous remerciait, mais toujours, ça n'avait aucun sens. Avant que la cérémonie ait lieu, pendant, après. Ben, j'ai compris pourquoi. Il dit, vous ne vous rendez pas compte. Il dit que le métier, ses pairs, lui, le plébiscite, le félicite, le remercie, c'est le plus beau cadeau que vous pouviez faire à mon père avant de mourir. Mais nous, on ne savait pas ça. Je me dis, merci mon Dieu d'avoir à un homme qui avait quand même, qui était 80 quelques années, avait passé sa vie sur scène. Jamais ses pairs lui avaient dit qu'il était formidable.
En ce sens, vous êtes un privilégié, mais vous participez aussi à construire ses privilèges.
Oui, on peut me donner tout le crédit qu'on veut, là, mais à la fin de la journée, là, l'important, c'est Gilles Latulippe. Que Gilles Latulippe parte sur une belle image. C'est ça qui est important. Le reste, franchement, moi, j'ai fait ces hommages-là pour faire le cadeau ultime à des gens qui le méritent. Parce que, pardon, mais il y a dans ce métier-là aussi beaucoup de faux amis, de fausses joies, de faux remerciements, d'hommages qui sont faits pour faire de la télé. Quand on vient un hommage de Juste pour rire, là, ce qu'on met sur scène, il n'y a pas de moyen économique d'arriver à couvrir nos frais. C'est parce qu'on veut vraiment, moi, je veux vraiment que ça soit le cadeau de leur vie, quoi, qu'ils ne s'en remettent pas.
Bien, quel beau cadeau. On va ouvrir maintenant le volet sur Charles Trenet, dans la mesure où cette histoire d'amour avec le Québec a commencé il y a très longtemps, dans les années 40, à Québec particulièrement.
Chez Gérard. Oui.
Gérard Thibault. Et Charles Trenet a composé une belle chanson.
Dans les rues de Québec.
On va l'entendre.
Depuis l'automne, que de villes parcourues, que de boulevards et de rues, New York, aux régularités, Chicago si joli, l'été, mais au cœur du joyeux hiver, c'est les rues de Québec que je préfère. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec, je m'en vais nez au vent, cœur joyeux, en rêvant. Bien des gens me sourient en pensant à Paris. Moi j'ouvre un large bec pour sourire à Québec. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots d'argent. Et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Les fumées du matin sont fantômes de satin. Dans les rues de Québec, par temps gris, par temps sec. Stop,
C'est gentil comme parole, hein? C'est la mère Bolduc qui m'a pris ça. Au loin, le Saint-Laurent roule ses flots d'argent, et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soirs exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière, je vous aime par temps sec dans les rues de Québec. Le Saint-Laurent roule ses flots d'argent, et les bateaux vont doucement sur l'onde à la ronde. Soirs exquis de l'hiver, feu de bois et chaumière, je vous aime par temps sec dans les rues, dans les rues, dans les rues du vieux Québec.
Oui, cette histoire avec Gérard Thibault est assez formidable parce que Trenet, je me souviens de l'avoir entendu raconter de son vivant qu'il était à Ottawa. Et puis finalement, il a fouillé dans le bottin téléphonique, puis il a trouvé un cabaret à Québec, puis il a pris le téléphone.
Un cabaret qui était à côté de la gare.
Oui.
C'était ça qui l'a fait choisir l'endroit. Il s'est présenté là, évidemment. Ce monsieur-là, c'était pas un cabaret, d'ailleurs, c'était un restaurant. Oui. Et il n'y avait pas de scène, il n'y avait rien. Puis il voit débouler Charles Trenet. Même si les moyens de communication n'étaient pas ceux d'aujourd'hui, il s'est rendu compte. Puis il a dit, on va mettre deux boîtes de Coca-Cola renversées. Là, puis il a chanté au public entre un steak puis avec le bruit des assiettes. Et très rapidement, la haute ville est descendue chez Gérard. C'est devenu le lieu le plus à la mode. Et il s'est engouffré dans un vraiment un filon. Puisqu'après ça, je pense qu'il y en a eu quatre cabarets et les gens venaient... C'était une période extraordinaire parce que tu pouvais avoir Trenet dans une salle, Aznavour dans une autre, Édith Piaf dans une troisième, mais et Duke Ellington qui jouait je ne sais pas où, dans la même ville, le même soir.
D'ailleurs, Gérard Thibault avait déjà mentionné que c'est grâce à la présence de Trenet qu'on a pu par la suite avoir Piaf, avoir Aznavour. Aznavour qui collaborait avec Pierre Roche à cette époque, qui n'était pas une méga vedette. Ils étaient à leur début, ces artistes-là.
Oui, moi, j'ai eu accès à des enregistrements. D'ailleurs, je me demande bien ce que j'ai fait avec ça. Où tu entends Édith Piaf, elle faisait des 5 concerts par soir. Ça, c'était normal. Hein? Donc, elle faisait des concerts de 40 minutes, mais il prenait 20 minutes de pause, puis il refaisait un autre, avec un autre public. Alors, c'était fou, là. Il commençait à 6h30, 7h, finissait à 2h du matin, puis enchaînait 5 concerts. Imaginez aujourd'hui demander ça à un artiste, il nous arracherait la tête. Et c'était comme ça, la vie de cette époque-là. Et Montréal était, pas juste Québec, c'était effervescent. Ce même soir, là, il pouvait avoir 20 stars à Montréal. Mais c'était le spectacle vivant qui fonctionnait. Et ça revient d'ailleurs aujourd'hui.
Oui, on a déjà reçu ici Jean Roger, qui a été maître de cérémonie à la fameuse Casa Loma. Et ce qu'il racontait, c'est qu'effectivement, c'était très épuisant, malgré le fait que les gens ne voyaient pas cela, parce que bien souvent, le public n'était pas toujours à l'écoute, il faut bien dire. L'alcool était très présent. Il y avait beaucoup de fumée. Et les artistes à qui on demandait de faire une prestation devaient constamment se surpasser. Pour aller capter cette attention, il y avait bien sûr des gens qui y allaient pour le spectacle, mais d'autres qui étaient là et pour d'autres raisons, disait-on.
Non, mais c'est une belle période quand même.
Oui.
Je suis certain que ceux qui l'ont vécu. Mon père l'a vécu, il m'en parlait avec une nostalgie. Parce que les gens sortaient, le champagne coulait à flot. On a beau penser, on a toujours l'impression qu'on a tout inventé. Mais à cette époque-là, l'alcool était moins cher. Donc les gens se payaient le champagne, même du monde très ordinaire, là. Alors ça fêtait, il y avait une sorte de folie. Bon, et quand les gens sont jeunes, c'est normal aussi qu'ils fêtent.
Alors on va se retremper un petit peu dans cette époque avec une chanson d'Édith Piaf et Charles Aznavour sur la musique de Pierre Roche. Ça date de 1951.
Wow.
C'est un gars. C'était un gars.
C'est un gars.
C'est un gars.
Thank you. ses semelles se dérobent. On voit le jour à travers sa robe. Son corsage est tout rapiécé, ses effets très fatigués.
Qu'importe ce qu'on dit à la ronde, je me fous du reste du monde. J'ai comme envie de rire et de chanter. C'est fou ce qui m'est arrivé. C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies.
Tu es jolie, tu es jolie.
On me l'avait jamais dit. C'est un gars qui ressemblait à un ange. C'est un gars qui parlait comme les anges. Tout étourdi. Je vivais depuis mon enfance dans les rues noires de l'ignorance. Soudain tout s'est illuminé, mon cœur se mit à chanter.
C'est beau l'amour qui se promène quand le bonheur en tient la chaîne. On voudrait rester prisonnier.
Rien que pour contempler son geôlier. C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies.
Tu es jolie.
Tu es jolie. Tu es jolie. On me l'avait jamais. C'est un gars qui parle comme les anges.
Tu es jolie, très jolie. Le bonheur n'est qu'un cri. C'est merveilleux lorsque nos corps se frôlent. L'amour jaillit, on perd tout contrôle. Et quand on est grisé de baisers et de mots, et de griffes ma peau, et mort dans mon épaule.
C'est un gars qui est entré dans ma vie. C'est un gars qui m'a dit des folies.
Tu es jolie, tu es jolie.
Veux-tu de moi pour la vie? Oui.
On vient d'entendre la jeune Piaf. Ça remonte presque à un demi-siècle, mais ça dépasse le demi-siècle, c'est assez incroyable.
Oui, c'est avant ma naissance. Ça commence à être loin, ça.
Et Charles Trenet, on va sûrement avoir l'occasion d'en parler la semaine prochaine, parce que d'abord, on va vous inviter à être des nôtres la semaine prochaine, si vous voulez bien.
J'ai pris comme un ticket, je vais revenir toutes les semaines.
Si vous le voulez bien, bien sûr, parce qu'on parlerait beaucoup de ce personnage que vous avez eu le plaisir, et non seulement le plaisir, mais on vous doit beaucoup à cet égard, parce que c'est un peu beaucoup vous, qu'il avait remis sur scène après beaucoup d'insistance. Juste un mot sur le personnage, ce que vous en gardez. Si on devait résumer, c'est une carrière monumentale, mais si vous deviez résumer le personnage...
Un vrai génie, au sens réel de la chose, un génie, parlait cette langue, était capable de peindre, dessiner, faire de l'architecture, faire des mathématiques, de l'astrophysique, mémoire d'éléphant, historien, tout ce qu'on peut imaginer d'un génie, avec un talent qui frisait la folie parce qu'il pouvait composer 5-6 chansons en une demi-heure sans aucun problème. Alors, pour lui, tout était facile, mais c'est surtout sa légèreté et sa philosophie du bonheur que je retiens. Ça m'a pris presque... Depuis qu'il est mort, je crois que je commence à comprendre ce qu'il voulait dire. C'est que c'était quelqu'un qui cultivait le bonheur au quotidien. Les malheurs n'avaient pas prise sur lui. Et il ne voulait pas avoir d'état d'âme. Il était toujours dans une légèreté. Alors imaginez quelqu'un d'extrêmement intelligent qui peut donc avoir des préoccupations d'une complexité sans nom, mais qui s'applique à être léger.
Et c'est ce qui avait fait son succès durant la guerre, parce qu'il transpirait cet aspect de bonheur malgré l'aspect sombre que devaient vivre, entre autres, les Parisiens particulièrement, sous l'occupation. Écoutez, Gilbert Rozon, on se retrouve la semaine prochaine. Le temps de vous dire que cette émission a été réalisée sous la supervision technique de Serge Plaisance. Merci d'avoir été là cette semaine.
C'est moi qui vous remercie.
Armand Dubois, micro, à l'animation et réalisation, et qui vous invite à demeurer à l'antenne. Au plaisir et à la semaine prochaine.